Mercredi 5 août. Il était à peine 3 h 30 et le fils du prophète n'eut pas encore distingué le fil blanc du fil noir quand nous reprîmes nos bâtons de voyage et énergiquement réconfortés par un généreux cordial, nous nous dirigeâmes vers la porte de Pekouch qu'il nous fallait franchir pour attaquer ensuite le mont Valier à sa base occidentale. L'inexpérience de notre guide, qui servait fort mal sa bonne volonté, nous fit perdre de précieux moments à travers les grandes dalles de granit qui couvrent la partie supérieure des Laouzets. Après beaucoup de détours, nous découvrîmes enfin la brèche qui devait nous ouvrir le passage du bassin des étangs longs et ronds. C'est de ce côté seulement que le valier est abordable par les touristes qui arrivent par les montagnes de Bethmale ou par le Rivérot de Borde. Les parois verticales du nord défient le pied de l'alpiniste le plus éprouvé. Géologiquement, le mont Valier est un énorme massif de cette roche archéenne qui forme la forêt de Cadus et que nous retrouvons aux cascades de Neretch. Sa flore est pauvre. Nous n'avons recueilli parmi ces touffes d'un gazon rude et piquant, la fétuque, que quelques myosotis, des valérianes, des linaires, des cérastes. À 8 h, nous étions sur le sommet du mont Valier, ni moins heureux ni moins fiers que le premier consul sur le sommet des Alpes. Avez-vous jamais escaladé une de ces cimes olympiennes que dans vos rêves d'enfance vous avez cru voisines des étoiles? Pour l'amour de votre âme, arrachez-vous un jour aux soucis énervants des affaires, au tumulte d'une vie factice et surmenée, et allez, une heure seulement, habiter une de ces solitudes aériennes où nul bruit d'en bas ne trouve son écho. Là, vous sentirez dans un frisson divin le réveil de vos nobles facultés atrophiées par l'atmosphère malsaine des cités. Là, si l'infini souffle en vous, vous le verrez se dilatant et prenant un sublime essor vers les régions de l'idéal et le palais de la divinité. Involontairement, alors, vous reviendront en mémoire ces hautes pensées des méditations poétiques de Lamartine. Là, tandis que je nage en des torrents de joie ainsi que mon regard, mon âme se déploie et croit en respirant cet air de liberté recouvrer sa splendeur et sa sérénité. Oui, dans cet air du ciel, les soins lourds de la vie, le mépris des mortels, leur haine, leur envie n'accompagnent plus l'homme et ne surnagent pas. Comme un vil plomb, d'eux-mêmes, ils retombent en bas. Ainsi, plus l'onde est pure et moins l'homme y surnage. À peine de ce monde il emporte l'image, mais ton image, ô Dieu, dans ses grands traits épars, en s'élevant vers toi, grandit à nos regards. Je renonce à décrire le saisissement étrange qui s'empara de mon esprit à la vue du spectacle prestigieux dont je fus le témoin. Mon étonnement était surtout produit par le contraste singulier de deux scènes grandioses qui s'ouvraient sur les deux versants du pic. Au nord, un voile immense de nuages, couvrant les vallées et les plaines, se confondait, au loin, avec les dernières lignes d'un horizon vaporeux. Immense mer floconneuse dont les vastes ondes envahissent les villes et les peuples dans un calme lugubre. Pas un écho du bruit de l'homme qui s'agite dans le réveil du matin. Pas un hurlement de fauve, un chant d'oiseau ou de torrent, ni un cri de pâtre, rien, rien n'arrivait jusqu'à nous qu'un silence solennel, comme si un froid suaire avait été jeté sur la nature blessée à mort. Quelquefois, cet océan de nuages s'agitait, houleux, inquiet sous l'action d'un courant invisible. Alors, çà et là, nous voyions émerger quelques cimes des plus élevées. Un plateau, un vallon apparaissait comme un mirage ravissant, mais soudain se replongeait dans les vagues obscures, et le suaire se tendait de nouveau sur ses apparences fugitives de vie. Quelques-uns semblaient regretter de ne pouvoir, de ces hauteurs, admirer dans un lumineux éclat de soleil les champs, les coteaux, les bourgs de leur beau pays et dominer, sur un vaste rayon, les gorges et les crêtes des Pyrénées. Pour moi, je trouvais un charme saisissant, incomparable dans ce spectacle émouvant de repos et de silence. À midi, le tableau était tout différent. Ici, dans le ciel lumineux, ardent de l'Espagne, se détachaient les grands pics, dont les pentes drapées de la sombre verdure du pin se couronnent dans les zones supérieures de glaciers étincelants. Le Netou et l'épais massif de la Maladetta, les chaînes altières de l'Aran, du Palias et de l'Andorre qui forment à la péninsule une formidable barrière contre les invasions des nations septentrionales. Derrière cet immense boulevard, les plaines étranges de l'Espagne, laides peut-être de près, mais sublimes de haut pour qui peut en discerner l'ordre général, selon Schrader. Outre le grand panorama à double décor et les pensées philosophiques qu'il engendre, le Mont Valier offre un intérêt de légende et d'épigraphie qui va nous arrêter un instant. Les trois pitons rocheux qui terminent sa lourde cime étaient autrefois surmontés de trois croix. Il n'en reste plus qu'une, portant une inscription que nous étudierons. Les deux autres ont disparu, laissant dans les traditions du pays des souvenirs de leur influence mystérieuse. L'une aurait été, par un berger irrespectueux, précipitée dans l'abîme. Mal lui en prit, car à l'instant, une effroyable tempête se déchaîna et un coup de foudre terrassa le malheureux sur le champ même de son triste exploit. Il fut relevé mourant et paya de sa vie, après une longue agonie, son action sacrilège. L'autre fut enlevé par un pâtre de sexe. Son larcin fut inspiré par un sentiment louable. Une épidémie mortelle décimait son troupeau. Le berger du Haut-Couserans, s'imaginant que cette croix serait un talisman protecteur pour sa bergerie, l'emporta furtivement et la plaça en l'entrée de sa grange. Honque plus, il n'éprouva de ces pertes ruineuses qui rendaient inutiles ses soins et ses fatigues. Jusque-là, peut-être, sommes-nous dans le domaine de la légende, car rien n'est épris du merveilleux comme l'âme naïve de nos montagnards. Mais avec la troisième croix que l'homme et les éléments ont respectée jusqu'à ce jour, nous entrons dans le champ de la réalité. Cette croix, nous l'avons vue et vénérée sur ce gigantesque piédestal d'où elle domine les contrées que le premier apôtre du Couserans évangélisa il y a 15 siècles. Elle est taillée dans un bloc de calcaire blanc. La main pieuse qui lui a donné la forme robuste qui lui permet de résister aux injures du temps y a gravé l'inscription que nous reproduisons. On lit sur le champ tourné vers le Couserans: Épiscope Domine Valeris Possuere 1672. La tradition attribue l'une des croix qui couronnait cette montagne à Saint Valier lui-même. Évidemment, ce n'est pas celle qui porte l'inscription que nous venons de transcrire, mais l'une de celles qui ont été enlevées. L'évêque qui a érigé celle qui a été respectée a sans doute voulu perpétuer ce souvenir dans l'inscription que nous nous proposons de lire ainsi: Episcopus et Dominus Valerius Possuere 1672. L'évêque Bernard de Marmiesse, qui en 1672 occupait le siège de Couserans, a érigé cette croix. Et Saint-Vallier, l'une de celles qui ont été enlevées à la vénération chrétienne. Cette interprétation épigraphique nous semble justifiée par la lecture rétablie de l'inscription, par l'histoire et la légende populaire. Nous laissons aux érudits le soin de la redresser si nous faisons erreur. Il était temps de redescendre. Sur le ciel éclatant du midi, le soleil avait déjà fourni une partie de sa course et semblait nous avertir que nous avions encore fort à faire pour remplir le programme de notre journée. Une vue photographique du sommet sur lequel nous nous étions reposés, autour du pieux monument de Bernard de Marmiesse, fut prise avec plein succès, et nous gagnâmes en moins d'une heure, par le versant occidental, les cabanes des étangs. Les lacs s'étaient couverts pendant la nuit d'une légère nappe de glace qui allait fuyant en festons irisés sous l'action rayonnante du soleil. Ces lacs, qu'à cause de leur configuration naturelle, on appelle l'étang long et l'étang rond, occupent le bassin que forment les pentes mourantes des pics de Sernaille, des Trois Comtes, des Seiches de Lecouert et de Cap de Pouetsch, et donnent naissance au limpide ruisseau qui arrose la vallée du Rivérotte. L'un d'eux, l'étang long, a été le théâtre d'un singulier événement dont le héros lui-même, encore plein de vie, m'a fait le récit. C'était dans les premiers jours du mois d'août 1840. Un pâtre du village d'Orjout, Bernard Duplat, qui gardait son troupeau dans ces lieux déserts, remarque quelques brebis imprudentes qui se sont trop avancées sur un banc de glace adhérent d'un côté seulement au rocher de la rive. De crainte qu'elles ne tombent à l'eau, il s'élance après elles. À peine a-t-il mis le pied sur le bac de glace qu'il entend un craquement sourd. Le banc s'est détaché et le voilà flottant sur l'abîme, chargé du berger et de ses 7 moutons. Debout sur cet esquif d'un nouveau genre, notre homme tremblant est emporté au large et navigue de longues heures. Il veut crier et appeler au secours, mais sa poitrine haletante est sans voix. Une soif inextinguible le dévore. Il essaie 1000 fois en vain de l'étancher en recueillant dans le creux de sa main l'eau qui monte sur sa frêle embarcation. Sur ces côtes solitaires, pas un être humain qui puisse lui venir en aide. Il ne sait point nager, d'ailleurs, l'oserait-il sur ces eaux si froides, embarrassées de glaçons? Une légère brise se lève de temps en temps, et chaque fois l'espoir renaît en son cœur, et l'équipage va et vient sur les flots, oscillant sous son trop lourd fardeau. 20 fois il s'est approché des bords. Il se penche en avant pour d'un bond gagner la berge. Mais le glaçon, dans un mouvement de recul, regagne le large et emporte le malheureux et ses illusions déçues sur la rive opposée, taillée à pic sur un rocher lisse qui ne lui offre aucune saillie pour se cramponner. Le soleil déjà s'était caché derrière les crêtes de Barlonguerre, et la nuit venait avec la terreur de ses ténèbres et la température glaciale. La surface du lac va se congeler à nouveau, et alors pour notre homme qui est nu-pied, sans cap, ce sera la mort, une horrible mort. Déjà les étoiles scintillent au firmament. Les moutons, exténués de faim, bêlent et lèchent les mains du berger et mordillent ses habits. Quelle longue nuit de souffrance et d'atroces angoisses! En ce suprême danger, notre pâtre se tourne vers la chapelle de Mongary, qui est de l'autre côté des monts, et promet à Notre-Dame le plus bel agneau de son troupeau. Le vœu à peine achevé, le glaçon aborde et le berger, se cramponnant aux branches d'un genévrier, regagne la terre ferme. À sa suite, tous les moutons qui avaient été les compagnons de cette périlleuse promenade bondissent et regagnent le parc. Il était 10 heures quand vint la fin de cette affreuse journée, passée en face de la mort dans les transes les plus poignantes. Mais je vous le dis, si vous voulez entreprendre un voyage de navigation autour du globe, inutile de faire appel au dévouement du héros improvisé de l'étang long. Sur les bords de l'étang rond, du côté du Midi, nous allons voir au milieu d'un amas de rochers la cloche du mont Valier. C'est une immense dalle de granit placée par un jeu heureux de la nature en équilibre instable sur un autre bloc qui lui sert de pivot. Un homme faisant contrepoids à l'une de ses extrémités lui communique un mouvement régulier d'oscillation et la dalle, frappant sur l'angle d'un autre roc voisin, rend un son lugubre, sec, intense, qui va se répercutant dans les échos du bassin. On dit que la veille de certaines fêtes, les fées de ces montagnes font avec cette cloche un vacarme infernal. On les a même entendues à l'heure mystérieuse du sabbat, se convoquant à la ronde nocturne. Imagination et naïveté superstitieuse. Mais ce n'est pas seulement ce versant que l'esprit populaire embellit de ses poétiques inventions. Si nous étions descendus par la vallée des Stours, nous dit l'un de nos guides, je vous eusse montré les Oelios Anticos. Il s'est passé là quelque chose qui mérite d'être vu et compté. En ce temps-là, notre Seigneur et Saint-Pierre voyageaient sur la terre. Passant d'aventure par ces montagnes, ils rencontrèrent un pâtre à la tête de son troupeau de moutons. Berger, où vas-tu? Lui dit le maître. Je vais paître mes moutons sur le mont Valier. Il faut dire, si Dieu le veut. Oh, qu'il le veuille ou non, j'y vais, reprit le pâtre. Halte, dit le maître. Et à l'instant même, berger, chien et troupeau furent changés en autant de pierres que vous auriez vues au milieu d'un grand pâturage. Elles sont là pour enseigner d'être respectueux envers le bon Dieu et témoigner de sa puissance. Nous étions depuis 2 heures autour des étangs, écoutant les récits de nos conteurs, admirant la pureté de ces ondes, où le chamois craintif, alors qu'il vient pour y boire, s'imagine, trompé par l'optique illusoire, lamper l'azur du ciel. Il était midi. Nous dûmes songer au retour vers nos pénates. Nous partîmes, emportant le meilleur souvenir de l'accueil empressé que nous avions reçu des bergers qui habitaient ces hauteurs. Avec une générosité toute écossaise, ils avaient mis à notre disposition leurs cabanes et leurs provisions avec leur vaisselle de bois et leur feu odorant de bruyère et de genévrier. Notre descente s'effectua péniblement à travers les rochers et les longues herbes qui couvrent les derniers ressauts des Caoussis. Nous traversâmes sur une enfilade de pierres le torrent qui se précipite en tourbillons écumeux vers le Rivérot, et nous remontâmes par d'interminables lacets la forêt d'Aiguamoch. C'est la route habituelle, route malaisée, ennuyeuse, fatigante. Mieux eût valu suivre la rive droite du ruisseau. Mais, là encore, un imperceptible sentier tracé sur des rampes escarpées n'est abordable qu'aux chasseurs d'isards et aux touristes dont l'œil et le pied sont familiarisés avec les précipices vertigineux. Par notre monotone chemin, nous arrivâmes enfin, après 5 heures de marche, à la Touo des Neretch. On reprend haleine, nous campons un instant devant ce spacieux abri que la nature, toujours maternelle, a bâti sur ces lieux pour les pâtres et les troupeaux. Nous ne connaissons pas en montagne un refuge plus vaste, plus commode. Il est regrettable qu'il n'y règne pas plus d'ordre et de propreté. Le site en est charmant. En face d'une luxuriante forêt de hêtres et de sapins, rafraîchie par les vapeurs des cascades qui descendent mollement de Neretch sur un lit de roche tapissé d'un vert duvet de mousse. Çà et là, de vieux troncs d'arbres jonchent le sol, un ruisseau limpide et une immense pyramide de granit pare ce paysage alpestre digne du pinceau d'un Corot. Il ne nous restait plus, pour arriver au terme de notre course, qu'à redescendre cette gorge profonde du Rivérotte qui devrait être une des plus fréquentées des Pyrénées. Je ne sais vraiment quel attrait on pourrait encore lui souhaiter pour en faire un des lieux recherchés des touristes et digne d'être chanté par les poètes épris du sublime et du pittoresque. Le géologue pourrait y faire d'utiles études sur le terrain silurien et la formation de ces moraines latérales. L'archéologue lui-même y trouverait d'intéressants vestiges de la civilisation primitive de l'homme dans nos montagnes, à une époque où les métaux n'y avaient pas encore fait leur apparition. Cette charmante vallée, je l'ai vue éblouissante de lumière, par une de ces radieuses journées d'été qui embellissent les plus sauvages aspects, et j'ai béni le Créateur qui a jeté à profusion ses richesses sur ces prairies, ces ombreuses forêts et ces cimes éblouissantes. Ce qui fait le charme supérieur du Rivérotte, c'est le ruisseau, dont les eaux transparentes réfléchissent un lit de sable nuancé comme une fine mosaïque. Tantôt il court, en mugissant sous des arcades de saules et de clématites, tantôt il s'épand, calme et cristallin, entre deux rives fleuries de pâquerettes et de campanules. Aujourd'hui, ni ces champs, ni ces bois, ni ces tapis de verdure n'avaient un reflet du ciel. La nuit venait, et la vallée était triste, pâle, comme si elle avait peur de la nuit. Aucun chant d'oiseau dans les buissons. L'aubépine était sans parfum, et nous, exténués, rompus, nous traînions nos pas sur un chemin qui nous paraissait long, monotone comme le chemin de l'exil. Et pourtant, nous allions vers une maison dont les portes hospitalières étaient heureuses de s'ouvrir devant nous pour nous offrir vers 8 heures du soir, à Bordes-sur-Lèze, les douceurs d'un repos bien mérité. Résumant mes impressions, j'estime que l'excursion du Mont-Valier, par la variété des sites, la prestigieuse majesté de son panorama et les surprises de ses inévitables incidents est l'une des plus intéressantes des Pyrénées françaises. Et si j'ai un regret à cette heure, c'est de n'avoir pas su broder sur un si beau sujet de plus riches atours.